Microcité, une émission de l'école de journalisme de Grenoble. 16h30-17h sur Campus Grenoble 90.8.
Margot Bongrand.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission de Microcité. Installez-vous, prenez une petite infusion et montez le son. On est ensemble pendant une demi-heure, le temps de balayer l'information de la journée et même de la semaine. Avec évidemment à la une de Microcité le terrible séisme survenu en Turquie et en Syrie lundi. Le bilan continue de s'alourdir, près de 25 000 victimes déjà. C'est la plus grande catastrophe naturelle de cette région depuis le siècle dernier.
Ce n'est pas une exagération. Après je ne sais combien d'années de guerre, je n'ai jamais eu aussi peur.
Ce séisme, c'est donc le dossier de la semaine à retrouver en fin d'émission avec Hugo Deschamps et Yara Zirba. Avant ça, un petit tour sur les terrains, ceux de rugby, avec Juliette Murray. Elle est partie à la rencontre de Manae Feleu, deuxième ligne du 15 de France et des Amazones à Grenoble, qui joue dimanche contre Blagnac. Voilà, vous savez tout, c'est le programme qui nous attend aujourd'hui. On est ensemble jusqu'à 17h. Mais avant, le journal d'information d'Adrien Michaud. Bonjour.
Bonjour Margot, bonjour à toutes et à tous.
Et à la une de l'actualité, une nouvelle journée de mobilisation contre la réforme des retraites prévue demain.
Oui, alors que le mouvement s'essouffle, les syndicats comptent sur ce samedi pour ramener du monde dans les rues. Sur les pistes de ski, après un début d'exercice 2022-2023 compliqué, les professionnels de la montagne comptent beaucoup sur ces vacances d'hiver. Et pour le moment, ça glisse pas mal à l'Alpe d'Huez. Et le Super Bowl, la finale du championnat de football américain, a lieu dimanche. Cet événement résonne jusqu'en France, où on joue de plus en plus à ce sport, comme à Grenoble, avec l'équipe des Centaures. Une journée décisive dans la contestation face à la réforme des retraites, c'est en tout cas ce qu'espèrent les syndicats. Plus de 230 cortèges sont prévus demain dans toute la France. Mardi, 757 000 personnes selon le ministère de l'Intérieur et près de 2 millions selon les syndicats sont descendus dans la rue. Des chiffres en légère baisse par rapport aux précédentes journées du 19 et 31 janvier. Le mouvement s'essouffle et les syndicats veulent donc remobiliser les foules demain. Nicolas Benoît, secrétaire départemental Isère-CGT, au micro de Nino d'Albera.
On attend du monde en force, hein, donc je pense qu'on sera aussi sur des quotas très forts, ce sera sûrement plus d'un million dans tout le pays. Hein. Nous, ce qu'on espère, c'est quand même 2-3 millions puisqu'on est sur un samedi, alors même s'il y a des congés scolaires en Isère, mais ça doit pouvoir aussi permettre à ceux qui sont congés de se déplacer et de faire un effort pour s'opposer à cette réforme. On la souhaite festive, hein. Là on engage vraiment les salariés, les retraités, la jeunesse à venir le samedi. La jeunesse n'est pas en cours, hein, donc elle peut très bien venir la manifester avec nous. On veut que ça se passe dans le calme et la bonne humeur et faire la démonstration que les Français sont prêts à défendre la question des retraites dans la rue.
Sur Grenoble, vous attendez combien de personnes ?
Je dirais entre 5 et 15 000 personnes, si on peut donner une fourchette basse.
Alors que l'Assemblée nationale vient de voter la fin progressive des régimes spéciaux, dont ceux de la RATP par exemple. Plus de 100 heures après le séisme destructeur en Turquie et en Syrie, l'espoir de trouver des survivants s'amenuise de plus en plus. Selon les derniers bilans officiels, les tremblements de terre et ses répliques ont fait au moins 25 000 morts en Turquie et en Syrie. Il s'agit d'une des pires catastrophes survenues dans la région depuis un siècle. Seul le séisme d'Erzincan avait fait plus de morts en 1939. L'aide internationale afflue depuis lundi en Turquie. L'Allemagne vient par exemple d'annoncer l'envoi de 90 tonnes de matériel par avion. Une aide humanitaire beaucoup plus compliquée à mettre en place en Syrie, où le régime de Bachar al-Assad est sous le coup de sanctions internationales. Retrouvez notre dossier spécial sur ces événements après le journal. Volodymyr Zelensky, le président ukrainien, a réclamé des avions de combat. L'Europe lui a dit non. Emmanuel Macron a même affirmé cette nuit lors d'un sommet européen que les aéronefs de chasse réclamés par l'Ukraine ne pourraient en aucun cas être livrés dans les semaines qui viennent. Alors que la Russie a mené cette nuit une attaque massive à coups de dizaines de missiles et de drones explosifs sur plusieurs sites énergétiques du pays. 19 milliards d'euros, ce sont les bénéfices réalisés par Total Energy en 2022. Ce montant historique surpasse largement le précédent record de 13,6 milliards d'euros de 2021. En cause, la reprise de la demande du pétrole après la pandémie, mais surtout la course au gaz provoquée par la guerre en Ukraine. Et pour beaucoup, l'indignation prédomine à Adam Ben Hamouda.
L'indignation, oui, et même, disons-le, la colère, déjà parce que 70% des investissements de Total en 2022 étaient liés aux énergies fossiles. Aucune évolution de ce côté-là alors que le groupe disait vouloir relever son ambition climatique. Le GIEC reproche aux géants pétroliers français de ne pas respecter les feuilles de route pour la transition énergétique. Mais ce qui irrite le plus, c'est l'explosion des profits malgré l'inflation à la pompe. 5 milliards d'euros de bénéfices supplémentaires par rapport à 2021 et des dividendes en hausse de 5% pour les actionnaires. En contrepartie, le groupe n'a payé que 200 millions d'euros d'impôts en France sur les 33 milliards qu'elle paye dans le monde. Les ONG environnementales parlent de profits illégitimes et réclament une taxe spéciale sur les super-profits, c'est-à-dire sur les profits exceptionnels liés à un contexte particulier, en l'occurrence la guerre en Ukraine, une initiative adoptée au Royaume-Uni par exemple, mais rejetée en France par le Sénat en novembre.
Depuis une semaine, les vacanciers de la zone A dévalent les pistes de ski des Alpes. Des congés de février essentiels pour les professionnels de la montagne. Ils représentent presque la moitié de leur chiffre d'affaires annuel. Alors, ils comptent beaucoup sur ce mois après un début d'exercice 2022-2023 compliqué. Et depuis le début de la semaine, la station de ski de l'Alpe d'Huez ne désemplit pas, Léa Surmeli.
Comme chaque année, Lionel et Guylaine sont venus passer quelques jours au ski. Avec l'inflation, leur budget est plus serré, mais pour autant, pas question de renoncer à leurs vacances.
Le budget, c'est autour de 4000 euros, hein, pour 4. On choisit de venir au ski au détriment de partir ailleurs. Le jour où ça amusera plus personne, on partira au soleil pour le même prix, je pense. Oui.
Ça représente les économies d'une année. On peut dire qu'on se fait plaisir, mais tout en regardant quand même pour pas non plus déborder le budget.
François Badjili, directeur de l'Office de tourisme de l'Alpe d'Huez, a le sourire.
On fait une saison extraordinaire. Cette semaine, c'est environ 15 000 personnes. Sur les semaines prochaines, on a des pointes entre 22 et 25 000 skieurs par jour sur la station. Avec le manque de neige dans les stations de basse altitude, on en a eu cet apport justement de clientèle de proximité qui est autour du bassin grenoblois, plus important que d'habitude.
Absent pendant 3 ans à cause de la crise sanitaire, les touristes étrangers sont de retour sur les pistes.
C'est quasiment un client sur 4 qui est britannique. Le Benelux, les Belges, les Pays-Bas et la Scandinavie qui sont très présentes. Mais on retrouve ce que nous, on appelle les longs courriers. Beaucoup d'Américains cette année. Canada, mais aussi d'Amérique du Sud, Argentine et Brésil.
Les stations sont ouvertes jusqu'à fin avril, alors profitez-en.
C'est le rendez-vous sportif numéro 1 aux États-Unis. Le 57e Super Bowl de football américain se déroulera dimanche. Qui des Kansas City Chiefs ou des Philadelphia Eagles décrochera le Graal? Coup d'envoi prévu aux alentours de minuit heure française. Cet horaire ne devrait pas effrayer les fans de ce sport et ils sont de plus en plus nombreux en France. Plus de 25 000 licenciés en 2022 et ce chiffre augmente d'année en année. Nino D'Albera est allé à l'entraînement des Centaures de Grenoble, équipe de première division française, pour comprendre cette montée en puissance.
Au stade Argouche de Grenoble, il fait 0 degré. Une quinzaine de joueurs enfilent gants, casques et protection. Martin, défenseur, est de ceux-là. Il adore aller au contact, mais pas que.
C'est comme un jeu d'échecs, c'est un sport qui est très cérébral. Et on a un poste prédéfini, on a une fonction prédéfinie au sein de l'équipe. Et c'est l'exécution parfaite qui va surtout en fait, nous garantir le fait de réaliser notre jeu correctement.
Au-delà du jeu, pour Andy, attaquant, c'est surtout la visibilité grandissante du football américain qui contribue à la popularité de ce sport.
Go, 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 go.
Maintenant, on a la chaîne L'Équipe qui diffuse la NFL, le championnat majeur aux États-Unis. Je sais que nous, ici, on diffuse sur Twitch, il y en a qui diffusent sur YouTube. On fait un max pour que ce soit visible et compréhensible.
Mais pour le coach David Gould, venu du Canada, le football américain a encore du chemin à parcourir en France.
Les jeunes joueurs commencent à jouer vers 12, 13, 14 ans. À cet âge-là, ils sont déjà à fond sur les sports européens comme le foot, le rugby ou d'autres sports. C'est difficile de convaincre ces athlètes à rejoindre le football américain.
Dimanche, ce supporter des Patriots sera plutôt derrière les chiffres de Kansas City en attendant les jours meilleurs du football américain en France.
C'est bien Ben, good job.
Le prochain match des Centaures de Grenoble, c'est à Toulouse le week-end prochain.
Et ce soir, c'est la 38e cérémonie des victoires de la musique. Un petit pronostic peut-être, Adrien ?
Pour moi, ce soir, c'est ce titre qui pourrait l'emporter.
À 5 ans, je voulais juste en avoir 7.
Vous avez reconnu la quête d'Orelsan. Sa musique concourt dans la catégorie chanson originale de l'année avec L'Enfer de Stromae ou Cœur de Clara Luciani. Dans la catégorie artiste masculin, Stromae, Big Flo et Oli ou le trio Grand Corps Malade, Ben Mazoué, Gaël Faye sont nominés. Et chez les artistes féminines, Angèle, Isia et Pomme peuvent remporter la récompense.
Adrien Michaud, on vous retrouve en fin d'émission pour le rappel des titres et la météo. Il est 16h39 sur Radio Campus Grenoble, l'heure de parler rugby. Le 15 de France masculin affronte demain l'Irlande dans le tournoi des 6 nations. Et dans quelques semaines, ce sera au tour des Françaises d'entamer leur stage de préparation pour disputer cette compétition. Un 15 de France dans lequel on retrouve Manae Feleu. Elle a 23 ans et elle joue deuxième ligne au FC Grenoble Rugby, club qui évolue en élite 1, l'équivalent du top 14 chez les filles. Du haut de ses 23 ans, cette rugby woman possède plusieurs casquettes. À côté de son statut de joueuse internationale, elle est aussi étudiante en médecine. Elle jonque donc entre ses cours et ses entraînements, Juliette Murray.
4 degrés ce soir-là sur la pelouse du stade Lesdiguières. Manae Feleu, en short et maillot bleu et rouge, aux couleurs du club de Grenoble, reprend les entraînements avec les Amazones.
Ça fait toujours du bien de revenir... De revenir en club, de rejouer avec les copines, donc contente, trop hâte d'être à dimanche.
Ça, c'était en décembre, après sa sélection nationale à la Coupe du Monde en Nouvelle-Zélande. Originaire de Wallis et Futuna, Manae touche son premier ballon ovale à l'âge de 11 ans, avec un père entraîneur de rugby, toute la famille est dans l'ovalie.
Ça n'avait jamais été une option de faire du rugby, parce que pour moi c'était un sport de garçon. Et en fait, un jour, ma petite sœur, elle a commencé à faire du rugby parce que mon père l'a emmené à un entraînement, elle s'ennuyait, du coup elle a fait avec les petits de l'école de rugby. Et ça a commencé à beaucoup parler de rugby à la table pendant les repas et du coup je me sentais un peu exclue. Du coup je me suis dit moi aussi j'ai envie d'essayer.
LSC se forme en Nouvelle-Zélande pendant le lycée puis quitte l'océan Pacifique pour la France et suivre des études de médecine.
En fait le sport ça a toujours fait partie de ma vie donc ça allait de soi que je continue à faire du sport mais je me suis pas dit je viens en France pour jouer au rugby. J'allais en France parce que dans les îles on peut pas faire d'études donc pour les études supérieures tous les jeunes de chez moi viennent en métropole. Si je trouvais un club de rugby à côté pour jouer c'était cool aussi parce que je kiffais ça.
Coup de bol, à Dijon, il y a un club, mais très vite, elle est repérée en 2020 par le FC Grenoble Rugby. Léo Brissot, le coach de l'équipe féminine Elite 1.
C'est une joueuse leader du collectif, c'est une joueuse qui est importante pour nous, malgré son jeune âge. C'est une joueuse qui s'applique à faire bien les choses. Et c'est une joueuse, après, ensuite, sur le rugby, qui a des grosses capacités dans le combat et l'agressivité, donc est capable de monter le curseur, être une joueuse assez méchante.
Mais ça, c'est que sur le terrain. Et dans la vie.
Elle est un peu plus timide, elle est un peu plus introvertie, c'est une joueuse qui est douce. C'est une joueuse douce, elle est plus douce à l'extérieur que sur le terrain.
À côté du rugby, il y a aussi les études et ça demande une certaine organisation.
En général, je me lève vers 7h, je commence à réviser à 8h jusqu'à midi à peu près. Après, à midi et demi, on est sur le terrain, on a entraînement skills pendant 1h. Et après ça, on a encore 1 heure de muscu. Ensuite, à 14h30, je rentre chez moi, j'essaie de manger vite fait.
Et après une petite sieste, c'est reparti. Entraînement presque tous les soirs, de 19h à 21h.
Mes parents qui m'ont toujours inculqué le fait de toujours avoir cet équilibre entre le sport et l'école. Je trouve que c'est cool parce que c'est des univers hyper différents. Et du coup, quand il y en a un qui me saoule, je me réfugie dans l'autre.
Un équilibre indispensable pour préparer l'après.
Dans les années à venir, j'ai vraiment envie de vivre le rugby à fond, prendre tout ce qu'il y a à apprendre au rugby parce que je sais que de toute façon, si ça prend 10-15 ans, je serai médecin à la fin.
Médecin du sport dans l'idéal, après une longue carrière internationale dans le rugby.
En tout cas, c'est ce qu'on lui souhaite. Les Amazones, deuxième du classement, reçoivent dimanche le leader Blagnac pour la 7e journée du championnat Elite 1. Coup d'envoi à 16h au stade Lesdiguières de Grenoble. Et dans quelques minutes, on va revenir sur le séisme qui secoue la Turquie et la Syrie dans le dossier de la semaine. Restez avec nous.
Yeah.
Vous venez d'écouter le titre Truth du groupe londonien Jungle. On se replonge dans l'actualité de la semaine, une actualité lourde, ce séisme qui a ravagé une partie de la Turquie et de la Syrie.
Le dossier de la semaine.
Depuis lundi, jour des premières secousses, le bilan du nombre de victimes du tremblement de terre en Turquie et en Syrie ne cesse de s'alourdir. Sur place, des milliers de secours du monde entier s'activent pour tenter de trouver les derniers survivants parmi les décombres.
Mais d'abord, regardez cette image en direct et ce très très fort séisme cette nuit en Turquie.
Injured after a 7.8 magnitude earthquake shook Turkey and Syria.
Regardez notre situation ici. Où est l'État ? Où sont-ils ? Je ne peux pas faire revenir mon frère des ruines. Les enfants sont gelés par le froid.
Des scènes d'angoisse qui se répètent dans un pays qui n'avait pas connu une tragédie d'une telle ampleur depuis 1999.
Cette semaine, c'est donc un dossier spécial que nous avons eu envie de vous proposer. Pas d'invité, mais un tour d'horizon de la situation avec des témoignages de ces Turcs et de ces Syriens qui ont vécu la situation de près ou de loin. Bonjour Hugo Deschamps.
Bonjour Margot.
Un séisme d'une telle ampleur, ce n'était plus arrivé depuis 1999 dans la région. Un tremblement de terre à l'époque qui avait fait près de 17 000 morts en Turquie. Quelle est la situation aujourd'hui en 2023 ?
Eh bien, le dernier bilan de la FAD, l'organisme de secours turc, fait état de 25 000 morts en Turquie et en Syrie. Ce sont les derniers chiffres en date et ils sont bien évidemment provisoires. Aujourd'hui encore, les secouristes du monde entier sont sur le terrain à tenter de trouver les derniers survivants dans les décombres. Malheureusement, à ce stade, à 4 jours des premières secousses, les chances de retrouver des personnes vivantes sont de plus en plus faibles.
Oui, surtout, on le sait, c'est l'hiver en plus dans ces zones de Turquie, ce qui rend la catastrophe encore plus dure. Comment elle a été traitée, cette catastrophe, dans les journaux en Turquie ?
Pour répondre à ça, je me tourne vers vous. Yara, vous avez analysé les unes de deux journaux turcs, entre pro et anti-gouvernement. Les deux points de vue divergent.
Depuis lundi, Hurriyet, Liberté en turc, un des plus gros journaux du pays, le quotidien proche du gouvernement de Recep Tayyip Erdogan, donne une idée de l'ampleur des dégâts. Pour ça, pas besoin d'aller plus loin que la une. Le nombre de morts et blessés sont affichés en jaune, en gros. Un bilan qui s'alourdit chaque jour. Le lecteur ne peut que se demander quand cet affichage prendra fin. En ce 9 février, le journal dédie sa première page aux enfants sauvés et à l'effort des secouristes, avec évidemment un clin d'œil aux apparitions du président turc. Du côté de Yeni Chag ou Nouvel Âge, titre opposant au gouvernement, cette fois il met en lumière le chaos des opérations des secours, principalement à cause d'un manque d'organisation, de secouristes et de matériel. Le journal questionne aussi la gestion douteuse de la crise par l'État qui a bloqué temporairement l'accès à Twitter mercredi, motif avancé par Erdogan, limiter la propagation des fausses nouvelles et des polémiques, argument peu convaincant auprès de ses détracteurs et des victimes qui utilisent le réseau social pour relayer leur appel à l'aide.
Depuis lundi, vous les voyez tous les jours sur les réseaux sociaux, ces images de la catastrophe, des immeubles qui s'effondrent, le sol qui tremble, les civils coincés dans les décombres. Chez les Turcs et les Syriens, c'est aussi un moyen d'appeler à l'aide et de témoigner de la situation sur place. Justement, je propose que l'on écoute le témoignage de Mayla. Elle vit à Alep et au moment des faits, elle était chez elle.
Je me suis habituée à tout ce qui vibre à cause de la guerre, je me suis dit que c'était normal et que ça allait se calmer. Mais le tremblement était terrifiant. Les placards s'ouvraient, tout bougeait et tremblait, à tel point que je me suis dit que cette fois, on n'allait pas s'en sortir. Je me suis abritée sous le cadre d'une porte et puis je suis descendue dans la rue. Le premier tremblement était terminé. Même pas une minute après, une deuxième secousse arrive. On a commencé à courir. On n'allait évidemment pas rester sous les immeubles. J'étais dans un quartier où il y avait des bâtiments des deux côtés de la rue. On a commencé à voir les conséquences de cette horreur. Je me suis rendu compte que ce n'était pas une hallucination. On marchait et on voyait des bâtiments dont les entrées étaient bloquées avec des gens coincés à l'intérieur. J'ai rejoint mes parents et on s'est réfugiés dans notre voiture. Aujourd'hui, c'est le premier jour que j'ai passé entièrement à la maison depuis lundi.
Ce séisme, je le rappelle, était de magnitude 7,8 sur l'échelle de Richter qui en comporte 9 en quelques heures. Et quelques heures plus tard, excusez-moi, une deuxième secousse quasiment aussi importante a été enregistrée. C'est bien ce phénomène qui a surpris les sismologues. On le sait, la Turquie est une région sismique importante. Un certain Jamy Gourmaud nous le racontait déjà il y a quelques années dans son émission culte « C'est pas sorcier ».
Ici, la plaque eurasiatique immobile. Et là,
la plaque arabique qui remonte vers le nord en direction de la plaque eurasiatique. Entre les deux, notre fameuse plaque anatolienne, coincée comme une savonnette coincée entre le pouce et l'index. Et comme une savonnette coincée entre le pouce et l'index, eh bien la plaque anatolienne s'échappe. Ceci grâce aux failles qui se sont découpées entre les plaques. Enfin, ce n'est pas aussi simple. En effet, vous le voyez vous-même, ici, la plaque anatolienne n'est pas complètement détachée de la plaque eurasiatique. Elle n'est pas totalement libre de ses mouvements. Du coup, globalement, la plaque anatolienne s'échappe en dessinant une légère courbe orientée sud-ouest et en chevauchant la plaque africaine. Mais à l'endroit précis où se trouve Sabine, quelque part par là, eh bien la plaque anatolienne se déplace vers l'ouest et ce mouvement n'est pas négligeable puisqu'il atteint en moyenne 2 cm par an.
C'est vrai que la Syrie se retrouve dans une situation extrêmement grave. Le séisme s'ajoute à toutes les autres crises vécues par le peuple, notamment après 12 ans de guerre, Yara.
Effectivement, Hugo, les scènes d'effondrement des bâtiments et de déblayage des décombres rappellent celles que l'on voyait déjà il y a 12 ans. La destruction était à cette époque causée par la guerre civile. Depuis 2011, le conflit qui oppose le gouvernement de Bachar el-Assad à ses opposants et des groupes terroristes a plongé le pays du Moyen-Orient dans une crise sans fin apparente. Les Syriens subissent une inflation grimpante, des coupures d'eau et d'électricité, des épidémies et maintenant une catastrophe naturelle. Une situation désespérante pour les habitants. Ils peuvent compter pour le moment uniquement sur l'aide des associations locales. L'accès des organisations internationales est rendu difficile, voire impossible par les sanctions économiques et la situation politique très instable de la région. Dans le pays, les aides internationales sont rares. Seuls quelques camions ont pu entrer à Idlib par l'unique passage frontalier avec la Turquie, région rebelle qui compte 3 millions d'habitants dont la moitié sont déplacés internes. Je parle de Idlib. La situation est plus que tendue, rapporte Céline Martelet, journaliste indépendante qui a notamment travaillé pour Arte et Mediapart.
L'aide humanitaire en fait ne parvient pas à rentrer au nord-ouest de la Syrie d'abord. Du coup, ils sont totalement livrés à eux-mêmes et ils n'avaient déjà pas grand-chose avant. Alors en fait, le passage de Bab el-Awa, c'est le seul passage qui permet, grâce à une résolution de l'ONU, d'envoyer de l'aide humanitaire donc, dans la zone d'Idlib. Mais le problème, c'est qu'en fait, les routes autour sont dévastées et qu'il y a un problème de logistique en fait. Les gens, il n'y a pas de camions, il n'y a pas de personnes pour conduire les camions. Il n'y a que les casques blancs qui sont sur le terrain pour déblayer et qui déblayent avec leurs mains. Et alors, ils avaient les compétences, ils savent faire, parce qu'ils avaient l'habitude d'aller chercher les gens sous les décombres après des frappes aériennes. Mais c'est juste qu'ils n'ont pas assez de matériel, en fait.
On l'a dit au début de ce dossier, ce séisme, c'est la catastrophe naturelle la plus importante du siècle en Turquie. Près de 22 300 morts dans le pays à l'heure où on parle. Nous sommes allés à la rencontre de membres de la communauté turque de Grenoble au lendemain des premières secousses.
Pour l'instant, il n'y a rien à faire. Je suis là et je m'inquiète pour eux. Depuis hier soir, je dors que 3 heures. J'arrive pas à dormir, trop stressé.
On a commencé à paniquer, penser à la famille qui est là-bas. Est-ce qu'ils sont bien? Est-ce qu'ils se sont sortis de leur bâtiment et tout? Je sais pas, c'était horrible, surtout nous, être ici, on n'a pas encore de nouvelles de notre famille.
J'ai peur pour moi et ouais, pour toute ma famille. J'ai réussi à les rejoindre, mais ici c'était 3h du matin, j'ai parlé avec eux et tout allait bien.
Je suis trop inquiète, oui. Franchement.
On a entendu qu'ils commencent à avoir des morts, on se dit qu'il y a une de nos familles qui peut être là-dedans. Quoi. Enfin, c'est vraiment horrible.
Vraiment des frissons.
La télé est ouverte 24h sur 24 hein, pour avoir des nouvelles. C'est insupportable, en fait, c'est dégoûté. Même aujourd'hui, je ne suis pas bien. Ça m'a choqué, j'ai commencé à pleurer bon matin. Ça nous a touchés, quoi. Vraiment touchés. J'arrive pas à dormir. Là, je travaille, mais je pense que ça... Vous comprenez? C'est des humains, c'est tout.
Dans la foulée, une cinquantaine de pays dans le monde ont envoyé des renforts sur place pour aider les secouristes turcs à fouiller dans les décombres. Mais c'est aussi tout un tissu associatif qui s'est mobilisé de près ou de loin pour apporter son soutien aux plus sinistrés. À Grenoble, notamment avec l'association culturelle turque. Youssouf, 24 ans, en fait partie. Voilà ce qui a été mis en place au lendemain du tremblement de terre.
On s'est, dès les premiers jours du séisme, mobilisé. On a montré notre soutien moral. Et dans un deuxième temps, puisqu'il fallait aller plus loin, on a apporté notre soutien matériel. Notamment aujourd'hui, on essaye toujours d'envoyer de l'aide en nature, qu'il s'agisse de vêtements, de tentes thermiques, de vestes. C'est un besoin essentiel. Les personnes qui sont, on va dire, sauvées pour résister contre le froid, parce que voilà, on est en hiver. Et concrètement parlant, on essaye de former des cagnottes en ligne pour récolter bien évidemment de l'argent et ensuite les verser aux organisations qui sont présentes sur les lieux. Je pense que s'il y a des personnes voilà, qui veulent porter assistance en donnant de l'argent ou en donnant des vêtements, etc., qu'ils fassent directement leur aide auprès des organisations nationales pour porter secours aux personnes qui sont encore sous les décombres.
D'ailleurs, si vous le souhaitez, vous aussi, faire un don, l'association culturelle turque de Grenoble organise une collecte jusqu'à dimanche. Il suffit de se rendre sur place dans leurs locaux situés dans le quartier de la Bruyère. Sinon, c'est important de le rappeler, mais plusieurs organismes comme la Fondation de France, le Secours Populaire ou la Croix-Rouge ont eux aussi lancé des cagnottes en ligne. Ne donnez qu'aux plateformes officielles, certaines cagnottes peuvent être frauduleuses. Ça aussi, c'est important de le rappeler. Et j'en profite pour le dire, toute l'équipe de Microcité et de Radio Campus apporte son soutien aux membres des communautés turques et syriennes.
Microcité sur Campus Grenoble 90.8.
Il est presque 16h57 sur Radio Campus Grenoble. Vous écoutez Microcité. L'info en une minute chrono, Adrien Michaud.
On vient de l'apprendre, la mort du cinéaste espagnol Carlos Saura à l'âge de 91 ans. Il était une figure du cinéma européen et réalisateur notamment du film Criac Cuervos, ayant remporté le César et le Golden Globe du meilleur film étranger. Selon les derniers bilans officiels, les tremblements de terre et ses répliques en Turquie et en Syrie ont fait au moins 25 000 morts. Il s'agit d'une des pires catastrophes survenues dans la région depuis un siècle. Demain, nouvelle journée de mobilisation contre la réforme des retraites. Plus de 230 cortèges sont prévus dans toute la France. L'Assemblée nationale, elle, vient de voter la fin progressive des régimes spéciaux, dont ceux de la RATP par exemple.
Et puis le soleil tape sur les fenêtres du studio de Radio Campus. Il fait beau, Adrien, on espère que ça va durer.
Oui, ça va durer. Grand soleil prévu tout le week-end sur tout l'Isère, avec des températures fraîches le matin, entre moins 3 et moins 2 degrés, mais agréable dans la journée, entre 12 et 14 degrés, de quoi boire un verre en terrasse.
Et ce soir, c'est la Ligue 1.
Oui, ce soir, c'est la 23e journée de Ligue 1. Coup d'envoi à 21h avec Nice-Ajaccio. Ce week-end, deux grosses affiches, Monaco-PSG demain et Olympique Lyonnais-Lens dimanche soir.
Microcité, c'est fini pour aujourd'hui, mais ne partez pas si vite. Dans quelques instants, une grande annonce sur les ondes de Radio Campus Grenoble. Je vous en dis pas plus, je vous laisse la surprise. On revient à 17h15. Nous, on revient aussi pour Microcité pour une 10e émission le 24 février, après une petite semaine de vacances. Profitez des vôtres si vous en avez. Tous les épisodes de Microcité sont à réécouter en ligne sur campusgrenoble.org. Vous pouvez aussi suivre nos aventures sur les réseaux sociaux, Instagram et Twitter, @microcité. C'est ciao.